continuer en s'intéressant maintenant au permafrost. Et donc, c'est Ludovic qui va nous présenter un petit peu l'état des lieux, des connaissances.
Eh bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon? Vous avez mon écran à disposition?
C'est bon, c'est bon.
OK. Donc, effectivement, je vais vous parler de permafrost et puis je vais vous parler également des risques associés à sa dégradation, c'est-à-dire à son réchauffement. Donc, ces travaux, c'est le résultat des travaux de toute une équipe avec notamment mes collègues Florence Magnien, Xavier Baudin et Philippe Deligne, ainsi qu'en particulier deux doctorants, Pierre-Alain Duvillard sur la partie infrastructure et Marco Marceur sur la partie glacier rocheux. Alors le permafrost, bon, tout le monde sait ce que sont les glaciers. Le permafrost, on commence à en entendre pas mal parler, néanmoins ça vaut peut-être le coup de le redéfinir. Il s'agit de tous les terrains dont la température reste durablement négative, inférieure ou égale à 0 degré, pendant au moins 2 ans, ça c'est la définition officielle, mais en réalité les terrains qui sont gelés aujourd'hui le sont depuis plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'années. Vous avez ici une modélisation, une cartographie de la distribution du permafrost sur un secteur de Suisse. On est dans le canton des Grisons, autour du Piz Cengalo, à côté du Piz Badil. Le Piz Badil est davantage connu des alpinistes. Et on verra tout à l'heure que depuis ce secteur à permafrost, on a eu un événement assez marquant. Et s'il y a un lien entre l'activité géomorphologique et le permafrost, c'est bien parce que ce permafrost permet la présence de glace dans les fissures. Il faut bien retenir que le permafrost est un état thermique. Ça ne se voit pas, sauf si vous avez une caméra thermique à la place des yeux. Par contre, cet état thermique, effectivement, permet la présence de glace dans les fissures, dans les infractuosités de la roche. Et c'est justement quand cette glace va évoluer qu'on aura des processus géomorphologiques au niveau des parois rocheuses, mais également au niveau des formations superficielles. Et on va d'ailleurs distinguer assez régulièrement les deux cas. Alors, ce permafrost qui ne se voit pas, il a quand même quelques témoignages dans le paysage. On peut observer des éléments qui témoignent de la présence de permafrost. Au niveau des parois, ça se traduit notamment par la présence de glaciers suspendus. Olivier vient d'en parler. Donc un glacier suspendu, c'est un glacier dont la base est froide, c'est-à-dire à température négative, collé à la roche. Mais le terme que Olivier n'a pas dit, c'est qu'effectivement, dessous, il y a du permafrost. Donc il y a une combinaison entre les deux qui est très intéressante et qu'on se proposera d'étudier dans le futur. Il y a également les couvertures glacionivales qui témoignent de la présence de permafrost. Ce sont des couvertures relativement peu épaisses, très peu mobiles et souvent assez anciennes, puisqu'on a retrouvé de la glace de plusieurs milliers d'années à l'intérieur de ces couvertures, et notamment à la base. Les glaciers sans raides. Alors ici, vous avez la face nord du Mont Blanc du Tacul, mais c'est un système un petit peu similaire à ce que l'on a, par exemple, du côté de Tacona, sauf qu'ici, la connexion est plus directe avec le col du Midi. Donc trois appareils glaciaires, trois types de glaciers qui indiquent, qui témoignent de la présence de permafrost. Et dans les formations superficielles, on a ce qu'on appelle des glaciers rocheux. Les glaciers rocheux, c'est des amas de roches, des éboulis, dans lesquels il y a suffisamment de glace pour que l'ensemble se déplace. La part relative entre roche et glace est très variable, avec certains glaciers qui contiennent très peu de glace, et au contraire, d'autres où ça peut monter à peu près à la moitié du contenu. Mais on n'a pas de permafrost dans les formations superficielles qu'au niveau des glaciers rocheux. On peut avoir du permafrost dans des éboulis, on peut avoir du permafrost dans des moraines. Et c'est souvent lorsque ces moraines ou ces éboulis se déstabilisent qu'on retrouve de la glace enfouie, qui témoigne encore de la présence de permafrost. C'est le cas ici au col des Gentianes. Le col des Gentianes, c'est dans le Valais, et il y a des infrastructures dessus, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Ce permafrost, en tant qu'état thermique, on peut le modéliser. Donc la modélisation se fait différemment en fonction du type de terrain, c'est-à-dire est-ce qu'on est en parois, est-ce qu'on est en formation superficielle. Pour les parois, on a depuis une bonne dizaine d'années des modèles, comme celui de Buckley qui a été publié en 2012, et qui permet, à travers un bilan d'énergie de surface, de donner les températures à la surface de la roche. Donc il nous faut pour ça le rayonnement solaire, donc ça se calcule dans des systèmes d'information géographique, la température de l'air mesurée au plus proche du site d'étude, pour finalement obtenir la température moyenne à la surface des parois. Donc ici, vous avez une cartographie d'une partie du massif du Mont-Blanc et on utilise des capteurs de température qui sont assez durables. Hein. On a maintenant des capteurs de température depuis 2005 dans le massif du Mont-Blanc qui permettent de paramétrer pour certains le modèle et d'autres qui permettent de le valider. Dans les formations superficielles et au niveau des glaciers rocheux en particulier, la méthode est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va commencer par une cartographie de ces glaciers rocheux qui peuvent être fossiles, inactifs ou au contraire actifs. C'est bien sûr les glaciers rocheux actifs qui nous intéressent le plus. Et à partir desquels, on va travailler sur les conditions d'ensoleillement et la température de l'air de ces glaciers rocheux actifs pour finalement, à partir d'un modèle statistique, obtenir la distribution du permafrost dans ces terrains. Voilà, donc on va souvent coupler deux modèles différents en fonction de notre intérêt, soit pour les parois, soit pour les formations superficielles. Quelle est la place aujourd'hui du permafrost dans la cryosphère des Alpes françaises? Eh bien, le permafrost, même s'il ne se voit pas, il est largement plus étendu que les glaciers. Il y a une dizaine d'années, on avait à peu près 275 km² de glaciers. Eh bien, on estime qu'il y a 3 à 4 fois plus de permafrost en termes de surface, avec notamment un certain nombre de glaciers rocheux actifs, ce qu'on appelle des formes fraîches, à peu près donc 1500 systèmes, pour une surface de l'ordre de 83 km², ce qui correspond là à un tiers de la superficie des glaciers. Mais bon, on a tous les secteurs aussi à permafrost qui ne correspondent pas aux glaciers rocheux. Dans les parois, on peut estimer, notamment dans la région du massif du Mont-Blanc, qui est pour nous un véritable laboratoire, qu'on va retrouver du permafrost au-delà de 2500 mètres d'altitude en versant nord, et il va parfois falloir monter au-delà de 3000, voire 3500 mètres d'altitude en face sud pour trouver notre permafrost. Quelques événements récents, alors je ne dis pas forcément liés directement à la dégradation du permafrost, mais en tout cas des événements qui se sont produits en contexte de permafrost. La question évidemment se pose quant à l'origine du phénomène, avec ici un peu la star alpine de ces dernières années, entre le 22 et le 23 août 2017, au niveau du Piste Cengalo dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la cartographie du permafrost dans le canton des Grisons. Là, vous avez donc la situation avant et la situation après. Un énorme pan rocheux s'est déstabilisé entre les deux, sur à peu près 700 mètres de haut, plusieurs centaines de mètres de large et des dizaines de mètres d'épaisseur. Cet événement a raboté d'un seul coup le glacier situé à l'aval, déclenchant une coulée de boue qui a parcouru 6 km. Et au terme de ces 6 km, eh bien, malheureusement, il y avait un village et ce village a été en partie détruit. On a une centaine de bâtiments qui ont été détruits ou très endommagés. Heureusement, la paroi avait été mise sous surveillance dès 2011, dans la mesure où il y avait déjà eu un événement de plus d'un million de mètres cubes. Là, c'est plus de 3 millions de mètres cubes pour l'événement de 2017. Et on voit ici sur la photo de gauche, justement, un espèce de geyser qui traduit le fait que le glacier a été pulvérisé en une fraction de seconde, alimentant en eau l'avalanche rocheuse. Dans les événements, les super événements récents, on a celui du Trisul Peak. Ça, c'est en Inde. Donc, le 7 février dernier, on a à peu près 25 millions de mètres cubes qui se sont déstabilisés, essentiellement de la roche, mais également des glaciers suspendus qui étaient situés sur ce versant rocheux. Et tout ça a créé une avalanche qui a parcouru des dizaines de kilomètres et fait 104 morts. Voilà la situation avant, voilà la situation après. On voit l'aérosol, la poussière qui a été déposée sur des centaines de mètres sur les versants latéralement par rapport au fond de la vallée. Une cicatrice d'écroulement particulièrement impressionnante, 550 mètres de large. Et vous avez ici sur le modèle, en bas à droite, 150 mètres d'épaisseur de matériaux mobilisés. Parmi les sites plus proches de nous, avec des volumes certes bien moindres, on a par exemple le Trident du Tacul qui s'est écroulé en 2018. Une belle cicatrice que l'on voit sur la partie droite et un beau dépôt au pied de la paroi. Ça, c'est autour de 40-45 000 mètres cubes, ce qui est en fait déjà un bel événement pour le massif du Mont-Blanc, mais évidemment, on est très loin des volumes cités précédemment. On y a trouvé de la glace, comme très souvent, de la glace qu'on a pu dater avec des collègues de l'IGE. Ici, avec une glace qui a plus de 1500 ans. Alors, ce n'est pas la plus vieille, on en a trouvé de plus de 4000 ans. Toujours est-il que la glace du permafrost, donc cette glace qui tend à cimenter les parois rocheuses, est effectivement une glace très ancienne et donc ça fait très longtemps qu'elle existe et jusqu'à présent elle n'avait pas été dégradée. Un autre exemple ici à Tacona, un petit peu plus bas en altitude, mais toujours en contexte de permafrost, avec environ 60 000 mètres cubes qui se sont déstabilisés. Donc là, il s'agit bien d'une paroi rocheuse et non du glacier suspendu dont parlait Olivier tout à l'heure. Et ça a donné lieu à une belle avalanche qui a parcouru plus de 2 km et qui s'est arrêtée à 150 mètres du chantier de construction d'une microcentrale hydroélectrique. Donc ce n'est pas parce que ces phénomènes effectivement se produisent haut en montagne que ça ne peut pas avoir des répercussions jusque dans les vallées. Et concernant les glaciers rocheux, là encore, on n'est pas à l'abri de problématiques de risque, avec une déstabilisation de plus en plus fréquente de ces glaciers qui se matérialisent par des décrochements, par des crevasses, etc. Et on voit ici également pour le cas de Pierre Brune à gauche comme du col du Loup à droite, eh bien le fait que les vitesses du glacier deviennent très importantes par rapport à la normale. La normale, c'est quelques dizaines de centimètres ou quelques mètres par an. Et donc en accélérant, effectivement, ces fronts tendent à se déstabiliser et produire des matériaux qui ensuite sont mobilisés à l'occasion de laves torrentielles, par exemple. Ça a été le cas pour le glacier du col du Loup. Avec une lave torrentielle, c'est ce qui est marqué sur le document LT 2015, une grosse lave torrentielle qui est descendue jusque dans le fond de la vallée. Question maintenant sur l'évolution de la fréquence des écroulements rocheux. C'est vrai qu'avec les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, on a une impression d'augmentation de la fréquence, mais ça restait à valider. Et donc on a travaillé sur l'ensemble du versant nord des aiguilles de Chamonix ainsi que sur la face ouest des Drus, qui s'est écoulé en 2005, comme certains le savent. Et donc, en comparant des photos de la fin du petit âge glaciaire et des photos actuelles, on voit non seulement le retrait du glacier, mais également plusieurs dizaines de cicatrices d'écroulement que l'on a pu dater précisément pour ainsi montrer une corrélation très étroite entre les périodes chaudes et la déstabilisation des parois rocheuses. Alors ici, le dernier bâton, c'est pour les années 2000, parce que c'est 2010 la publication de ces résultats, mais depuis 2010, on a un bâton qui dépasserait largement la hauteur de la diapo. On a fait un travail un petit peu similaire à l'échelle des Alpes tout entières, et là, on a exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire une décennie 40 qui avait été chaude et qui s'était déjà traduite par des déstabilisations assez fréquentes, et ensuite une augmentation quasiment exponentielle jusqu'à aujourd'hui en termes de fréquence, et on est en train de travailler également sur le volume actuellement. Du point de vue des glaciers rocheux, ça se traduit par une très forte accélération des vitesses. Vous avez ici des exemples en Haute-Maurienne, dans le Queyras, dans une autre partie de la Maurienne et du côté de Roche-Brune. Eh bien, chacun de ces glaciers rocheux, vous le voyez, a une très nette tendance à l'accélération, notamment depuis le début des années 2000, ce qui se traduit évidemment, enfin, ce qui correspond à une accélération du réchauffement climatique. Alors, quels sont les risques associés à ces parois rocheuses qui dégèlent et à ces formations superficielles qui dégèlent également? Eh bien, trois types de risques. Tout d'abord, des risques matériels et humains pour les fonds de vallée, avec très régulièrement des processus en cascade. On a vu ça pour le cas en Inde, on a vu ça pour le cas du Pitch Jengalo. Ici, un presque accident avec le cas de Tacona. Des risques évidemment pour les alpinistes et les randonneurs, c'est quand même les premiers impactés par ces modifications. D'ailleurs, la pratique de l'alpinisme d'une manière générale est très impactée par le changement climatique. On a ici un exemple du côté de l'arête des Cosmiques. C'était en août 2018. Il y avait des cordées avant, il y avait des cordées après. Et heureusement, les 3 000 mètres cubes se sont déstabilisés alors qu'il n'y avait personne dans ce secteur. Et puis des risques de déstabilisation d'infrastructures. C'est vrai que dans ces contextes de permafrost, on a de très nombreuses infrastructures liées à la pratique du ski, la pratique de l'alpinisme et de la randonnée comme les refuges. Avec ici un cas que je connais très bien, puisque j'étais aide-gardien au refuge ce jour-là. Et 600 mètres cubes de roches sont tombés directement sous le refuge, nécessitant la fermeture et de gros travaux de consolidation. C'est un sujet tout à fait d'actualité. On a de très nombreuses infrastructures en haute montagne qui se déstabilisent, des gares de télésièges qui s'affaissent, des gares qui présentent une fissuration, des pylônes qui bougent. Ici, le cas de Rozelle, il a fallu déplacer la gare supérieure d'un télésiège. Et ici, vous voyez, à Val d'Isère, il a fallu même aubaner le pylône pour éviter qu'il ne se déstabilise trop au cours d'un été. C'est vrai que les dommages sont de plus en plus fréquents. On a toujours un petit peu de difficulté à récupérer de la donnée parce que c'est des données forcément un petit peu sensibles. Mais on a quand même maintenant 10 à 20 infrastructures qui ont été justement fortement endommagées, avec donc une augmentation de cette fréquence de dommages, notamment depuis les années 2010. C'est vrai que c'est assez sensible et chaque été caniculaire qui passe renforce évidemment cette tendance. Voici ici une étude sur l'ensemble des composantes d'infrastructure. On a à peu près 950 éléments d'infrastructure présents en contexte de permafrost et on a travaillé à quantifier le risque par rapport à chacun de ces éléments à partir d'un degré de vulnérabilité ainsi que le contexte thermique et géomorphologique des assises de ces infrastructures. Et donc, on a quand même 16% des infrastructures qui sont à risque fort, voire très fort. C'est notamment le cas de la gare supérieure du téléphérique des Grands Montets à Chamonix. Bon, la situation change un petit peu parce qu'il y avait un gros incendie en 2018, ce qui fait qu'il va être reconstruit dans des conditions bien différentes de ce qui avait été fait dans les années 60. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour le futur? Alors, en paroi, on a montré que les écroulements ne se produisent pas forcément à 0 degré. Ici, vous avez les écroulements survenus en 2003 identifiés à partir d'imagerie satellite et en 2015 à partir d'un réseau d'observateurs constitué de guides, de gardiens de refuge, etc. Et on a montré que les écroulements ne se produisent pas nécessairement autour de 0 degré, mais déjà à des températures plus négatives. Et ça se raccorde à quelque chose qu'Olivier nous a dit, c'est que, bah certes, à 0 degré, on peut imaginer que les glaciers suspendus se déstabilisent, mais peut-être avant, à moins 1, moins 2 degrés, les caractéristiques mécaniques de la glace changent. À droite, vous avez les températures mesurées à 10 mètres de profondeur à l'aiguille du midi, dans des forages, en face sud, en face est et en face nord. Donc on voit que même au cœur des montagnes, on note la variabilité interannuelle des températures. Et on voit surtout que ces températures, elles tendent à évoluer. Chaque année, on prend entre 0,1 et 0,17 degrés, ce qui est évidemment important à l'échelle d'une décennie, et ce qui rapidement peut nous faire passer dans des conditions de température qui sont justement celles qui posent des problèmes de stabilité, moins 1, moins 2, moins 3 degrés. Comme pour les glaciers, on peut modéliser ce que seront les champs de température à telle ou telle échéance en fonction des scénarios climatiques proposés par nos collègues climatologues. Donc ici, vous avez la situation actuelle pour le sommet des Grands Montets, le sommet de l'Aiguille du Midi et le Grand Pied d'Angle sur le versant italien du massif du Mont-Blanc. Et effectivement, on peut imaginer que bah, en dessous de 4000 mètres d'altitude, les sommets dégèlent complètement d'ici la fin du siècle. Ce sera le cas pour les Grands Montets, ce sera le cas pour l'Aiguille du Midi. Et il faudra remonter au-dessus de 4000 mètres d'altitude pour retrouver des températures relativement froides. Dernier élément concernant le futur. Ici, vous avez le traitement statistique d'un certain nombre d'écroulements survenus dans le massif du Mont-Blanc, notamment pour les années 2003 et 2015. Et vous voyez que quand on regarde la fréquence cumulée sur des échelles log-log, on obtient ce qu'on appelle une loi puissance, et une loi puissance qui est très bien suivie par les écroulements, sauf pour des petits volumes et pour des gros volumes. Alors les petits volumes, effectivement, bah, malheureusement, on n'est pas en capacité de les documenter tous. Donc ça, c'est juste un biais d'observation. Par contre, les gros, bah, on sait qu'on les observe tous, mais si à cet endroit, ils ne suivent pas notre loi puissance, c'est parce que justement, ces gros écroulements vont commencer à se produire. Et on voit déjà, avec le cas du Piz Cengalo, cette augmentation des volumes mobilisés, en tout cas à l'échelle alpine. Au niveau des formations superficielles, eh bien, on a pu construire un indice de susceptibilité de déstabilisation à partir de données topoclimatiques, à partir d'indices de déstabilisation. Et ça, évidemment, quand on croise avec la distribution des infrastructures et les vulnérabilités à l'aval, puisqu'on a vu que des laves torrentielles pouvaient se produire, c'est devenu un outil assez intéressant. Et puis enfin, des pistes pour la prévention, alors des travaux spécifiques sur les infrastructures, notamment pour comprendre les bonnes et les mauvaises solutions apportées par les gestionnaires. Donc ça, c'est tout un travail qui est en cours de publication. Il a déjà été en partie publié, vous voyez, Vuillard et compagnie en 2021 sur les stratégies proactives et réactives. C'est vrai que les gestionnaires sont plutôt actuellement dans les réactions, mais on les incite évidemment à aller vers une démarche plutôt proactive. Et vous avez à droite ici un document qu'on a publié il y a 2 ans pour identifier les signes précurseurs de déstabilisation. C'est l'ouverture progressive de fractures, c'est des circulations d'eau, etc. Plein d'éléments auxquels les alpinistes actuels doivent être particulièrement vigilants quand ils fréquentent ces milieux de haute montagne. Voilà, et puis pour terminer, donc juste une petite note pour raccorder avec ce qu'Olivier nous a présenté. C'est vrai que les glaciers suspendus sont au contact du permafrost et la liaison entre les deux, le lien entre les deux est très intéressant. Et notamment pour ce petit glacier sur la face nord de l'aiguille du Midi, on a enregistré des températures quand même très proches de 0 degré. Donc on reste attentif à l'évolution de ces environnements de haute montagne. Voilà, merci à tous pour votre attention et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, c'était vraiment très complet. On voit qu'il y a énormément d'impact à venir. Je voulais savoir comment c'était organisé en termes de vérification de la sécurité des différentes infrastructures. Est-ce que c'est une initiative de l'État? Est-ce que c'est par massif? Est-ce qu'il y a eu un inventaire systématique pour déjà dans un premier jet de voir ce qui va être le plus exposé et après ensuite on va affiner. Enfin, comment tout ça est organisé?
Alors, nos travaux sont avant tout des travaux fondamentaux, c'est-à-dire que, ils émanent finalement de nos propres réflexions, c'est-à-dire de notre propre chef. Ça, c'était en particulier le cas quand on a démarré dans les années 2000, 2005, 2000, début des années 2010. Aujourd'hui, évidemment, les gestionnaires sont de plus en plus confrontés à ces aspects-là. On ne va pas dire encore qu'il y a une concertation à l'échelle française. Par contre, chacune des stations de haute montagne prend en compte ces aspects-là. Et typiquement, ici, du côté Chamonix, la communauté de communes nous a demandé une étude sur l'état de stabilité de chacune de ces infrastructures présentes sur le permafrost. Donc, c'est pour l'instant quand même plutôt à l'échelle locale que ça se passe. Mais on commence à avoir également des volontés, notamment du ministère de l'Environnement, à travers des plans d'action sur les risques d'origine glaciaire et périglaciaire qui vont permettre peut-être d'avancer davantage à une échelle nationale.
Est-ce qu'il y a des initiatives équivalentes qui existent sur les Pyrénées?
Alors sur les Pyrénées, on commence un tout petit peu à travailler sur l'état du permafrost, mais ce permafrost, il est un petit peu dans le même état que le permafrost des Aiguilles Rouges de l'autre côté de la vallée de Chamonix, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus rien. Et on a quand même très peu d'infrastructures, ce qui fait que les risques finalement associés à la dégradation du permafrost sont bien moindres que dans les Alpes.
D'accord. Je vous propose en fait de basculer maintenant sur le débat plus général. Ça permettra de revenir sur chacun.